Amis de la poésie, amis auditeurs, amis auditrices, vous êtes sur Radio Campus et plus précisément sur Radio Météor, l'émission qui émet des ondes poétiques sur Amiens et toute sa région. Pour ce troisième rendez-vous, nous allons nous intéresser à un thème qui taraude bien des poètes. Que faire de ces textes une fois écrits? Comment les partager? Avec qui? Par quels moyens? Et enfin, quelle démarche pour espérer une publication auprès d'un éditeur? Pour nous accompagner dans cette discussion poétique, nous avons deux personnes en studio avec moi. Donc tout d'abord notre invité Antoine Maine, qui est poète, localement installé sur Amiens, qui viendra nous parler justement de cette question de l'écriture poétique et également justement du partage et de la publication. Et bien entendu, nous avons Ramiro. Ramiro, troisième émission. Comment ça va, Ramiro?
Ça va très bien, avec le printemps.
Avec le printemps, et justement, il sera question de printemps et notamment de fleurs et tout particulièrement de cerisiers, mais ça sera tout à l'heure. Alors, également à nos côtés, Hugo de Radio Campus Amiens qui nous accompagne pour cette troisième aventure. Merci à lui. Donc, on commence tout d'abord par le splash poétique. Puisqu'il y a une actualité régionale au niveau de la Picardie, c'est une exposition vraiment que je vous conseille à tous au musée de Beauvais, donc le Mudo de l'Oise. Et donc c'est Bernard Dumerché, éditeur, une vie de livres et d'art. Alors j'ai eu l'occasion d'aller à cette exposition qui a été présentée, commentée par Bernard Dumerché en personne lors d'une réunion avec d'autres éditeurs de la région, et c'est vrai que c'était un super moment et vraiment avec des objets, on peut le dire, des livres-objets vraiment passionnants à regarder, à visiter du regard et à lire bien entendu, des artistes qui s'associent avec des poètes, donc vraiment des démarches très originales et aussi une approche de la bibliophilie qui est une façon également d'approcher la poésie autrement à travers l'objet livre, et à chaque fois chaque livre est unique. Donc je vous invite vraiment à aller à cette exposition qui se tient du 24 mars jusqu'au 21 octobre 2018 au Mudo de l'Oise. Alors nous continuons et nous ouvrons cette émission avec Antoine Maine, notre invité. Donc Antoine, ça va?
Très bien, ouais.
Très bien. Alors un peu d'appréhension avant de venir en studio. Tout va bien se passer, c'est normal. Alors on a réussi un Ramiro à le faire venir avec nous.
Oui.
Il était un peu hésitant, mais il est là, il est bien dans le studio. Donc Antoine, c'est super que tu sois avec nous puisque tu fais partie du collectif Météor.
Oui, c'est ça, ouais. C'est
avec Ramiro, moi-même et donc Christophe de Carpel. Et donc, c'est pour nous l'occasion de te recevoir, puisqu'on te connaît, mais aussi d'échanger avec les auditeurs justement sur ton expérience,
ouais,
d'écriture tout d'abord. Hein. Alors, comment on tombe en poésie, Antoine?
Oh là là, c'est une vaste question. Alors, on commence sans doute à l'adolescence, comme bien des personnes. Et puis après... Dans mon cas, c'est quelque chose que j'ai perdu, puis il m'a fallu pas mal d'années pour retrouver le goût de l'écriture, en fait. Et c'est par le biais de rencontres, c'est aussi des moments de la vie qu'on traverse et qui nous amènent à poser des mots, quoi.
Poser des mots. Et alors, tu as commencé à poser des mots? Sur des cahiers, des carnets, sur ordinateur, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Comment c'est venu, alors, les premiers mots qui se sont vraiment posés, on va dire?
Oui, d'abord, évidemment, ça passe par l'écrit, et par l'écrit sur des supports papier, sur des carnets. Et puis, pour moi, disons, c'est arrivé aussi avec l'émergence du web, et des blogs, donc il y a quelques années. Et très vite, en fait, j'ai quitté le papier pour aller sur le web. Donc par la création d'un blog. Et puis, évidemment, avec l'avènement des réseaux sociaux, bon, ça s'est bien développé. Alors, ça a été d'abord sur Twitter, aujourd'hui sur Facebook aussi. Et maintenant aussi, alors ça prend une autre forme, c'est pas toujours évident parce que l'écrit passe pas de la même façon, mais sur Instagram aujourd'hui, il y a vraiment toute une communauté de poètes et qui est en train de vraiment se développer. C'est assez intéressant parce que c'est un mix entre justement sur Instagram qui est basé sur le visuel à la base. C'est un mix entre le visuel et le texte. Et donc il y a pas mal de choses intéressantes qui se font. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, pour moi, ça a été quelque chose de très important, parce que c'est vrai que la poésie, en soi, c'est une activité très, très solitaire. Bon, on a la chance, nous, de faire partie d'un collectif, mais quand on démarre, c'est pas forcément évident de rencontrer des interlocuteurs avec lesquels on puisse échanger. Et ben là, sur les réseaux sociaux, ça a permis pas mal de rencontres et qui ont été déterminantes pour moi. Je crois que sans ça, je ne sais pas où seraient allés mes écrits. Et peut-être qu'à un moment, j'aurais arrêté parce que bon, je pense que quand on écrit, on a envie d'être lu. Et quand on est tout seul dans sa chambre, ce n'est pas forcément évident, quoi. Et là, les réseaux sociaux m'ont permis en fait, de toucher un public, alors je ne sais pas s'il est très large, il est peut-être très, très réduit, mais en tous les cas de rencontrer des poètes et des poètes partout en France et à l'étranger, hein, que ce soit en Afrique, en Amérique, du moins au Québec, ça m'a permis vraiment de rencontrer des gens, certains même physiquement, en fait, et c'était très, très, très enrichissant, en fait.
Y compris des Japonais. Un japonais.
Un japonais aussi, on en reparlera peut-être
plus tard. On en reparlera tout à l'heure pour justement l'écriture du cerisier. Ramiro.
En te lisant, on dirait que tu es une espèce de fantôme qui se promène dans la ville et, bon, en dessous du ciel, tout t'intéresse. Tu as un radar pour capter ce qui se passe, notamment sur la nature, les terroirs, les paysages. Et je voulais savoir si les lectures ont aussi une incidence particulière dans cette manière de regarder, de lire le monde.
Oui, bien évidemment. Hein. Les lectures, alors ça a été... cette vision sur le monde, bon, elle est liée aussi à mon enfance. Je suis né dans une ferme, en pleine campagne, une ferme entourée de bois, donc ça a été très déterminant aussi dans ma vie et dans ce que j'écris. Les lectures ont accompagné en fait cette démarche, que ce soit par les auteurs que je lisais, alors que ce soit les auteurs que je lisais enfant, je pense à, par exemple à Jack London ou à un autre auteur aussi qui a bercé mon enfance, c'était La Bibliothèque Verte, et puis aujourd'hui il est sans doute un peu oublié, c'était James Oliver Curwood, qui faisait évoluer ses personnages aussi dans le Grand Nord canadien. Quoi. Il y avait une notion d'espace comme ça, c'était très important pour moi, donc il y avait toutes ces lectures-là. Après, plus tard aussi, je pense à d'autres auteurs, et entre autres Giono, hein, pour... Le lien avec la nature, quoi, la force, la puissance de la nature, ça a vraiment été très important pour moi. Et puis après, si on revient à la poésie, bon, j'en oublie sûrement, mais là, celui qui me vient à l'esprit aussi, c'est Guy Hvic, en fait, par son attention à la nature, sa précision, les formes courtes qu'on retrouve aussi chez moi. Voilà, il y a Guy Hvic. Et puis, je voudrais citer aussi, parce que il est important pour l'influence sur mes derniers textes, et Pierre Garnier, hein, donc auteur local, décédé il y a quelques années, et qui était en même temps, quoi, qui était poète et qui était aussi un ornithologue et passionné par les oiseaux. Et c'est une passion que je partage aussi avec lui, quoi.
Alors, là, ce qui est intéressant, c'est qu'Antoine, tu nous dis que tu viens de la campagne. Mmh. Tu habitais dans un endroit un peu isolé, etc. Et là, après, on bascule dans la poésie 2.0. Hein.
Oui,
ultra
oui.
technologique, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant dans ton parcours. Hein. C'est qu'on pourrait se dire, il part avec son petit carnet au fond d'un bois écrire le chant des oiseaux. Non, mais pas du tout pour le partage. Il va s'adresser justement, Antoine, tu vas t'adresser à la communauté internet et virtuelle, hein, c'est ce que tu disais également.
Oui, oui, tout à fait. Hein,
qui... ouais, alors ouais. Ça, c'est intéressant parce que souvent, on a la représentation, on écrit des poèmes, on va envoyer son manuscrit à un éditeur et on attend patiemment et on espère qu'il va nous répondre. Et toi, tu fais le choix avant tout de partager cette poésie avec des personnes comme ça qui sont géographiquement éloignées.
Hmm. Oui, mais pour moi, de toute façon, c'est... quoi, malgré tous les dérapages, tout ce qu'on peut craindre du web, moi je suis complètement dedans et je trouve que c'est un outil magnifique et je doute pas que qu'aujourd'hui un Rimbaud serait sur le web, quoi. C'est-à-dire qu'il c'est utiliser les outils d'aujourd'hui, quoi. C'est alors après l'inspiration elle vient de loin, quoi, hein, mais c'est un outil formidable. Il n'y a pas d'incompatibilité, bien au contraire, entre les deux, quoi.
Non, mais c'est important de le souligner et que les auditeurs auditrices l'entendent. Alors, on est sur le web, mais on est aussi sur papier, hein, c'est-à-dire
tout
que
fait,
là, Antoine, ouais. Il y a une publication d'un livre, donc une vie avec du ciel. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, comment on passe de la poésie 2.0 dématérialisée sur le web, sur le net, avec tous ces outils sur les réseaux sociaux, à une publication papier classique, vraiment avec une présentation à l'ancienne.
Tout à fait. Donc là, en fait, l'écriture, elle se fait donc sur le blog, sur les réseaux sociaux. Là, l'avantage, ça, c'est d'entrer dans une communauté, c'est-à-dire que ce soit de poètes, d'auteurs, d'éditeurs qui sont aussi présents sur le web et sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc voilà, de se rendre compte que on a la possibilité d'avoir un contact rapide avec un certain nombre de personnes, de revues et d'éditeurs. Donc là, après, pour moi, la démarche a été d'envoyer certains de mes poèmes dans des revues, hein. Alors, je ne sais plus laquelle a été la première, mais un jour je me suis dit voilà, j'ai envie de voir ce que vaut ma poésie, comment elle est reçue. J'avais quelques retours sur le web, maintenant j'avais envie de savoir si ça pouvait intéresser des revues, donc je l'ai envoyé à différentes revues et en général ça a été bien reçu puisque mes poèmes très rapidement ont été publiés dans des revues, hein. Donc les quelques revues donc auxquelles je pense, c'est Friche, c'est Décharge, c'est Voix d'encre, Comment poésie. Alors ça, ce sont des revues papier. Puis après, il y a aussi pas mal maintenant de revues qui sont exclusivement sur le web et voilà, qui ont retenu mes poèmes. Et voilà, après, ce qui s'est passé pour moi, ça a été un concours de circonstances. Dans le cadre justement d'un concours, la revue Friche, qui avait publié certains de mes poèmes, organise tous les deux ans un prix, donc il s'appelle le prix Troubadour, parce qu'ils sont basés dans le Limousin. Et voilà, donc j'ai envoyé donc un manuscrit. J'avais à l'époque écrit pas mal de choses, j'ai tout rassemblé de cette façon. Je leur ai envoyé ça et il s'est avéré que le jury a sélectionné mon manuscrit. Et donc la récompense en fait du concours, le prix, c'était la publication du recueil. Donc voilà comment le premier recueil a été publié. Sinon après, la démarche dans mon le manuscrit, je l'avais envoyé chez un ou deux éditeurs, sans retour. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est très très difficile, hein, la poésie. On gagne pas d'argent avec la poésie, ni en tant qu'auteur, ni en tant qu'éditeur. Du moins, il y en a très peu, en fait, qui... Donc, faut réussir à trouver sa place. Hein, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs, de toute façon, qui refusent les manuscrits. Quoi. Ils en reçoivent tellement. Quoi. Je sais que là, récemment, il y a un éditeur qui mettait sur son site qui recevait 1000 manuscrits par an. Voilà, donc, bon, il nous faisait bien comprendre que ce n'était pas la peine d'envoyer le 1001e. Ouais. De toute façon, il ne serait pas lu.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important de le rappeler, hein, c'est que n'envoyez pas à tout va vos manuscrits, ciblez bien les maisons d'édition, intéressez-vous aux maisons d'édition, hein, je pense que c'est important, leur ligne éditoriale. Ouais, et c'est vrai que l'exemple que tu nous donnes, Antoine, c'est que peut-être d'abord on peut se tester.
Voilà,
tester son écriture, bien entendu, sur le web, sur les réseaux sociaux, mais également à travers les revues.
Oui, oui.
Hein, et ça, c'est vrai que ce n'est pas assez mis en avant, c'est qu'il y a une galaxie de revues assez incroyable en France, ça fourmille de partout en termes de créativité au niveau des revues. Et c'est vrai, c'est un peu comme ça, étape par étape, c'est comme ça que tu as procédé. Je pense que c'est intéressant, hein, dans la démarche.
Hein. Oui, non, mais c'est pour moi, ça a été très, très, très important, hein, parce que le. Quelque part, ça valide un petit peu le travail qui a été effectué, quoi. C'est-à-dire que quand j'envoie mes poèmes et puis qui sont retenus, qui sont publiés, bon, bah, ça permet un peu de juger un petit peu ce qu'on a fait. On voit quels sont les poètes qui ont été publiés dans la même revue. On voit comment on se situe. Ça permet aussi de créer des contacts, voilà, de communiquer avec certains d'entre eux et de... Je pense que les liens, ce qu'on fait nous aussi au niveau du collectif, hein, c'est très important. Quoi. On n'est pas dans une tour d'ivoire à écrire nos petits poèmes. Quoi. C'est pas ça. Quoi. On est aussi branché sur le monde et sur des communautés diverses en fait. Et c'est vrai que c'est très important, je pense, cette étape-là aussi. Et ça permet aussi, parce que l'air de rien, bon, c'est vrai que je ne sais pas quel est le lectorat des revues les plus lues, mais ce n'est pas énorme. Mais ça permet aussi de se faire connaître. Quoi, le web est une façon, mais l'air de rien, quoi, les éditeurs, les différents.
Se faire un nom, c'est ça.
Oui, c'est ça, voilà.
Se faire un nom, c'est vrai que c'est important, effectivement. Loin puis, du mythe du manuscrit envoyé qui est publié, que c'est la bonne surprise, effectivement, il y a peut-être un travail justement de patience et justement de contact et de liens à faire dans le monde de la poésie.
Oui, et aussi ce qui est, je pense, assez important, moi j'étais un petit peu dans cette démarche-là, alors ça peut paraître un peu justement trivial, mais c'est le jour où on va envoyer un manuscrit à un éditeur, si dans son CV, entre guillemets, bah, on peut dire qu'on a déjà été publié dans telle revue, bon, ben, ça met un petit peu de poids. Après, évidemment, c'est la qualité de l'œuvre qui va importer, mais voilà, on est un peu dans une logique là de marketing en soi, en fait, mais ça fait partie aussi du job, quoi. Ouais.
Savoir communiquer.
Voilà.
Alors, eh bien, nous, c'est ce qu'on fait sur Radio Météor. On communique et on fait rayonner la poésie et un petit intermède musical. Alors, on a choisi Feu Chatterton, une chanson qui s'appelle L'Oiseau. Ça parle d'un oiseau mort et on en parlera un peu avec toi parce que justement, après, on va parler dans une deuxième partie avec Ramiro de ton écriture de création.
Au bord de l'eau, un pigeon défunt. Pour un oiseau, mais quel drôle de fin. Sur la plage, échoue sans cesse. Je t'ai par les vagues, échoue sans cesse. Là-bas, à présent, l'orage dort sous la grève. Tout corps tôt, le sable s'élève. Puis c'est l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas reposé. Viens là, le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles une poupée vautour. arrive-t-il d'un pays lointain? Se vola-t-il au regard éteint? Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire arrive. Alors du temps qui passe, je remonte le cours jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver des plumes, un souvenir de plus du pauvre oiseau reconnu. Le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves et doux rayons comme des aigus d'une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves et doux rayons comme des aigus d'une poupée vaudou. Rien que je te mette à abri des longs droits lumineux de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Rien que je te mette à l'abri des longs droits lumineux de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau moqueur. Pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau.
On est toujours avec vous sur Radio Météor en présence d'Antoine Maine qui écrit de la poésie et qui même en publie, mais aussi qui en fait sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et on va enchaîner avec Ramiro Anviedo qui a fait un retour de lecture d'Antoine. Alors, il y a Une vie avec du ciel qui a été publié au cahier de poésie verte. Et également, Antoine t'a confié, Ramiro, des textes nouveaux, oui, sur lesquels il est en train de travailler.
Tout à fait. Bon, bah, écoute, c'est un plaisir de rencontrer Antoine. Et déjà, le fait de faire partie de notre collectif, à moi, ça m'a permis de confronter aussi mes textes, mon écriture, à celle de mes frères, de mes confrères. Et bien sûr, on est très loin d'être des clones. On a des écritures différentes, complètement des registres bien hétérogène, on va dire. Cependant, c'est, comme on n'est pas non plus des fanatiques, on réussit à capter la poésie, n'importe quelle soit sa couleur. Et c'est ce qui m'arrive avec la poésie d'Antoine. On ressent un style, hein? On ressent une force, on ressent du temps, du travail, de la rigueur et une sensibilité. On ne travaille pas la sensibilité. La sensibilité est fauve, sauvage. Et on le sent, et on voit la force du poète qui essaye de contrôler, de maîtriser cette puissance, non? Et c'est ça le travail. Donc moi je suis très content de rencontrer Antoine concernant Une vie avec du ciel, publié par le cahier de poésie verte, et qui a gagné le prix Troubadour 2016. Le livre, il contient trois parties. Non? Et chaque partie, c'est une série différente de poèmes. Donc, le fil rouge dans les trois parties, c'est la nature, le terroir. Même si le premier poème, la première partie qui est la plus longue, Une vie avec du ciel, contient une vision, les registres du poète, de tout ce qui se trouve en dessous du ciel. Donc, il se promène comme un fantôme, je disais tout à l'heure, dans la ville. Et un moment de clair-obscur, hein, c'est l'aube, c'est un peu le sombre, et c'est la lumière qui apparaît. Et dans cette ambiance, le poète qui fait sa promenade et qui a envie d'imaginer ce qui se passe derrière les volets des maisons. Hein. Et à chaque fois qu'il fait ça, il nous transmet une certaine tristesse. Je veux dire qu'on sent la vulnérabilité de l'homme, de tous les hommes, y compris les poètes, comme s'il y avait un échec quelque part. L'échec de celui qui est à l'intérieur et qui est loin de lui et que lui essaye d'imaginer ou de deviner ce qui se passe. Bon, dans la première partie, si c'est vrai qu'il se promène dans la ville où il y a des maisons et un fleuve et tout un paysage urbain, non, il va prendre le temps et de manière presque inconsciente de confronter tout ce monde urbain à la puissance de la nature. Et c'est à ce moment-là où il vient le souvenir, on va dire une espèce de nostalgie, comme presque une gourmandise, non, qui elle conserve de manière très puissante dans la mémoire, et donc tout ce qu'il trouve en dessous du ciel, donc un traité d'ornithologie, de toutes sortes d'oiseaux, d'arbres, les vents, le soleil, des feuilles, enfin. C'est très, très, très riche cet inventaire qu'on trouve dans la première partie et qui est le plus remarquable déjà dans les trois séries du livre, non? Dans la deuxième partie, il parle de la montagne, non? Et dans la montagne, on voit une espèce de, on va dire, cinq poèmes qui constituent un bilan métaphorique de cette espèce d'échec de l'homme vis-à-vis du temps. Non, c'est le temps qui oxyde, on va dire, qui corrompt les choses et la pureté sauvage de ces souvenirs qu'il a gardés. J'imagine, ce sont des choses de la ferme, les chemins à l'école, les arbres qu'il a vus, tout un imaginaire qui est énormément, on va dire, idyllique, non, et qui me fait penser à certains poètes espagnols, pour dire quelqu'un, Fray Luis de León, quand il parle, c'est peut-être le premier poète écologiste de la littérature occidentale, non, avec cette nostalgie, il sent que quelqu'un s'en va, il se va pour toujours, non, quand il écrit la Oda à l'Ascension. Ici, il y a quelque chose qui est perdu aussi, et c'est peut-être la tristesse du poète vis-à-vis de ce patrimoine qui ne reste que sur le papier. Ce sont des mots. Et ça va se confirmer dans certains poèmes de la dernière partie, lorsqu'il écrit l'arrivo, ou sur l'arrivo. Donc, il écrit, par exemple, un texte qui s'appelle « Oublier », et un autre texte, je ne me rappelle plus le nom, mais il fait cet inventaire de souvenirs de ce qui est irrécupérable, non? Et les insectes, les oiseaux, cette nostalgie du temps mort, non? Cette envie d'attraper et l'échec, parce qu'on ne peut pas. Il n'y a pas une deuxième opportunité pour revivre la mémoire. Et tout a changé. Donc, rien ne l'appartient. Et il y a le regret d'une perte qui est énorme. Non? Il y a une sensation de fatalité, quelque part. Et si bien, c'est vrai, il y a une partie d'une série de poèmes, il parle de la montagne. La montagne, c'est le deuxième poème long du texte. La montagne, il arrive à condenser, à comprimer tout ce qui est la terre, le terroir, la nature. Hein? Et c'est cette montagne qui a aussi la puissance impériale qui dicte à l'homme ce qu'il doit faire. Mais aussi on voit que c'est le poète qui dicte à la montagne les choses qu'il devrait faire. Donc je trouve qu'il y a un rapport énorme entre nature et culture. Non, c'est un travail de poète, essayer de connecter la nature à la culture, et on trouve bien dans Une vie avec du ciel cette force, dans un style très fin, très raffiné, je dirais, et sans pour cela oublier certains traits de la prose. Il y a de la prose poétique et il y a une subtilité, une manière de travailler la allusion en direct et en certains cas surtout d'arriver presque à l'haïku, non, à la de la poésie japonaise pour présenter des petites postales, non, sur ces paysages. Donc c'est ça ce qui le plus m'a impressionné de la lecture d'Une vie avec du ciel. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais seulement une dernière pour me référer à un des poèmes de la dernière partie. Quand tu parles d'un couple qui est sur la scène, il me semble, non ? Un couple d'amoureux. C'est un texte qui est un peu en décalage avec les autres parce que là, on voit, et qui sert comme élément pour justifier une sorte de contradiction entre ce qui est l'histoire du poète lui-même, sa vulnérabilité, peut-être son échec vis-à-vis de quelque chose, non, on ne sait pas, ce n'est pas clair, c'est justement un des secrets de la poésie, non, on n'a pas besoin de dire les choses ni les vérités, il faut suggérer, il faut faire des allusions tout simple. Mais ce qui m'a touché, c'est la quête du rythme qu'il n'y a pas dans les autres poèmes. Il y a une sorte de... Ça m'a fait penser à un poète boulonnais, Jean Rictus, qui a écrit sur les marginaux à Paris, non, sur les SDF à Paris, et qui a été, dans son temps, mis en chanson. Non, c'est ça. Aussi, je suis d'accord avec toi, ça m'a fait penser à Giono, ça m'a fait penser à Guillevic, à qui tu fais un clin d'œil en quelques moments dans ton texte. Ça m'a fait penser à Yvon Lemain, et pour donner un nom d'un poète équatorien latino-américain qui a écrit dans cet style, dans cette ligne du registre du monde, il y a un poète qui s'appelle Jorge Carrera Andrade, qui était ambassadeur de l'Équateur à Paris, en France, et qui a beaucoup voyagé. Et comme tu es un grand voyageur, quelqu'un qui parcourt beaucoup le monde, même si c'est le terroir de ton paysage et de ton pays, donc il a capté cette même... avec cette même puissance et force, ce qu'il regarde. Donc, le radar du poète pour lire le monde. Pour les cerisiers, je pense que je dirai deux choses après.
Oui, oui. Merci, Ramiro, pour ce retour de lecture. On va laisser la parole à Antoine. Alors, le poète qui dialogue avec les montagnes, mais on voit avec beaucoup de paradoxes et aussi une certaine fatalité face à l'existence. Alors, Antoine, qu'est-ce que tu peux répondre à Ramiro ?
Difficile de rebondir. D'abord, je remercie Ramiro là, pour tout ce qu'il vient de dire sur ma poésie. Je suis très, 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 très touché. Et comme il le disait lui-même, c'est difficile en soi d'expliquer.
Il y aurait une part de mystère qu'il faut accepter, c'est ça?
Ah oui, oui. Non, mais de toute façon, pour moi, la poésie est toujours mystérieuse. Et elle est, quoi, ce que j'écris est complètement mystérieux pour moi. C'est-à-dire que bien souvent, quand je commence à écrire un poème, au bout d'un moment, comme tu le disais, bon, on sent le travail, quoi. En tous les cas, je travaille beaucoup. Après, je ne sais pas si mon travail est de qualité ou pas, mais je travaille beaucoup, je réécris, etc. Et au bout d'un moment, je me rends compte que le poème dit autre chose que la vague idée que j'en avais au départ, en fait. Donc je ne sais pas forcément ce que j'écris. Et à un moment, voilà, à un moment je le saisis. Moi, j'en saisis une partie. Il y a certains poèmes, d'ailleurs, que je relis longtemps après, et je comprends encore autre chose, en fait. Je ne sais pas bien ce que j'écris dans mes textes, en fait. Donc le mystère, il est total, et pour moi, le premier.
Oui, oui. Non, mais c'est important de le souligner, parce que c'est vrai que le mystère, la notion de mystère, fait partie intégrante de la poésie. Hein.
Tout à fait. Si, et aussi, je pense qu'il traîne du début jusqu'à la fin la question qui se pose le lecteur. Comment on réussit à créer ce mimétisme entre la montagne et le poète, entre le paysage et le poète, entre le cerisier et le poète? Il y a un mimétisme, un dialogue, comme tu as bien dit tout à l'heure, comme Giono l'a fait, non? Mais c'est difficile de séparer pour le lecteur, même si on s'arrête, et c'est ça la magie de la poésie aussi. Ça va de manière très mystérieuse, mais on arrive à simplement à constater que les érisiers et les poètes ont le temps de se parler, de se rencontrer, de s'aimer, de se respecter, non, et parfois d'être solidaires dans les possibles échecs qui viennent. Même s'ils vont se battre à fond, mais le vent l'emportera, parce qu'ils resteront que des feuilles. Non? Et pareil avec la montagne, peut-être il va disparaître. Ils resteront les pierres. Non? Les pierres, ils vont rester. Et enfin, c'est vraiment très touchante, cette manière de voir, de lire le monde.
Alors, Ramiro, tu as lâché le mot, le cerisier. Alors, une petite lecture, courte lecture, Antoine, s'il te plaît. C'est un travail actuellement que tu mènes. Donc, tu es en pleine création autour d'un recueil, hein, si j'ai bien compris. Et ça parle d'un cerisier.
Bon, je vais donc vous lire quelques poèmes de cette série. Sachant que, pour faire court, hein, c'est le cerisier à travers les saisons. Donc là, comme on est au printemps, j'ai commencé à écrire donc, il y a quelques temps. Donc je vais vous lire ce que j'ai pu écrire face à mon cerisier ces semaines dernières. Printemps, jour 2. Un étourneau, une tourterelle, un moineau, trois célibataires dans les branches du cerisier. Il faut se tenir sous le cerisier, fermer les yeux, simplement, écouter le dialogue des abeilles, des fleurs. Il pleut. Le cerisier s'en fout. Il fait des fleurs et des fleurs et des fleurs. Neige d'avril. C'est le cerisier qui laisse aller ses fleurs. Chute légère de pétales blancs. Un bout de lune, deux, trois étoiles discrètes, quelques pipistrelles glissent silencieuses dans la nuit qui tombe doucement. Un train dans le lointain, tout au loin. Un pigeon qui s'endort dans les branches du cerisier. Ça pourrait être la fin heureuse du monde. Parfois, un papillon parmi les fleurs blanches, comme l'une d'elles qui aurait pris des couleurs, qui aurait pris le large. Pluie sur le Vélux, clochette au dehors, qui tintinabule dans le vent, une sonate de Mendelssohn dans l'enceinte Bluetooth, quelques mots rares autour du café et le vert silence du cerisier.
Merci Antoine. Alors, le dernier poème, je l'ai lu ce matin sur Facebook.
Voilà.
Donc c'est tout nouveau là.
Ah ouais, ouais. Il est tout frais. Là.
Tout frais, tout frais. Alors, le temps, malheureusement, passe très très vite et on parle de poésie. Alors, on va rapidement dire quelques mots peut-être sur ce travail de création.
Ouais.
Et après, on va clôturer l'émission avec, justement, et tu peux en parler également, Marc Monsigny, donc, qui est chanteur, compositeur, et avec lequel tu as commencé à travailler autour de ce projet de cerisier.
Voilà. Donc, bah, le cerisier, hein, ce sont des textes que j'ai commencé à écrire cet automne. Hein. Donc là, j'ai écrit trois saisons, automne, hiver et printemps. J'ai continué sans doute pour l'été maintenant. Alors bon, au départ, c'est venu comme ça, hein, quelques poèmes comme ça. Puis, en fait, il y a un dialogue qui s'est instauré avec le cerisier qui est dans mon jardin. Donc il y a une grande fenêtre et je vois le cerisier. On échange, alors je sais pas trop ce que lui en pense. En tous les cas, moi j'écris. Et puis voilà, là au fil du temps, il y a pas mal de poèmes autour du cerisier. Alors c'est un projet en fait, et c'est ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui, c'est-à-dire que bon, il y a d'une part l'écriture, d'autre part je suis entré en contact par le biais de Twitter avec un illustrateur, un peintre japonais. Puis un beau jour, je me suis dit, je vais lui écrire, donc je lui ai écrit, et puis je lui ai fait part de mon projet, j'ai envoyé quelques textes que j'ai malhabilement traduits en anglais, et puis ça lui a plu, et puis aujourd'hui, il a réalisé une série de 9 illustrations, peintures, pardon, tout à fait magnifiques. Donc voilà, d'une part, le cerisier, ça devient ça aussi. D'autre part, maintenant, avec le collectif, donc nous avons réalisé une soirée là, il y a quelques temps, et j'avais envie de mettre de la musique derrière le cerisier. Donc là, je suis entré en contact avec Marc Monsigny, donc qui est chanteur, auteur, interprète, guitariste aussi. Et je lui ai proposé de m'accompagner, ce que très gentiment il a accepté de faire. On a travaillé un petit peu ensemble et puis il a composé donc une musique qui accompagne le cerisier sur scène, entre guillemets. Donc là, jusqu'à maintenant, on a fait deux lectures. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais voilà, le cerisier, c'est aussi de la musique. Et à côté, c'est aussi de... ça démarre tout doucement, mais c'est de la vidéo aussi, des vidéos que je suis en train de réaliser. C'est un projet qui prend pas mal de forme.
Eh bien, merci Antoine. Alors, Ramiro, un petit mot avant...
Juste signaler qu'il y a une des choses qui m'ont ému énormément de ces textes. Bon, à part la lecture, parce qu'Antoine, c'est un excellent lecteur. Et dans l'écriture, je trouve qu'il arrive à créer une distance avec l'objet poétique, dans ce cas le cerisier. Malgré qu'il y a une communion entière entre le cerisier et le poète lui-même, il arrive à inventer une distance. Et comme il a dit, je ne sais pas, c'est mystérieux, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en pense de moi. Et c'est comme les amoureux dans un couple. Et de l'amour, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il pense l'autre, non? Et c'est une histoire d'amour. Le cerisier, il va répondre bien, il va se battre jusqu'à la dernière feuille, comme il dit. Et cette leçon d'optimisme, pour l'instant, on est arrivé jusqu'au printemps. On verra qu'est-ce qui se passe avec l'été, non? On attend avec curiosité. Ça d'un côté. D'autre côté, un recours à l'oralité. Je trouve que dans ces poèmes, et particulièrement, parce que dans les autres, il n'y en a pas beaucoup, il y a une tendance d'Antoine à trouver des expressions qui font partie du quotidien, non? Et une oralité casse presque du prosaïsme élevé à la catégorie du poétique. Il me semble que c'est ça qui lui donne la force, aussi beaucoup de force à ce texte. Parce qu'une des premières choses qu'il essaye, c'est de ne jamais tomber dans les clichés. Et faire de la beauté avec la naturalité qu'on peut et qu'on doit. Voilà.
Eh bien, merci Ramiro. Alors, Antoine, on espère te revoir d'ici quelques mois avec ce cerisier publié. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite vraiment. Et donc, on te remercie d'être venu ce jour avec nous parler poésie. Là, pendant trois quarts d'heure, Antoine, on a discuté poésie avec Ramiro, donc c'était super, on était trois du collectif. Donc Ramiro Oviedo, qui a fait le retour lecture, Antoine Maine et Sébastien Kieck, donc à ce présent micro. Donc on vous donne rendez-vous pour la quatrième émission de Radio Météor en juin. Et on se quitte en musique avec Marc Monsigny, avec le morceau qui s'intitule, Antoine,
Les éparges.
Les éparges. Merci et à très bientôt sur Radio Météor, sur les ondes de Radio Campus Amiens.
Merci, au revoir.
C'est une croix coupée, curieusement dressée. On est dans l'ordinaire d'un cimetière. Le nom d'un homme gravé, deux médailles accrochées. Il y a juste une épitaphe ajoutée. Un autre fils tombé à 25 ans aux éparges, le 20 février 1915, tombé. Il n'y a rien de plus de cette histoire devant ces mots qui peut savoir. Il n'en est pas revenu de là-bas, ce grand-oncle fantôme à moi. Fauché un flanc de colline, à l'assaut d'une crête assassine, dévoreuse d'hommes englués, jamais rassasiés. Au jour naissant, tout allait finissant, sorti de tanière, corps à corps qui la serre. Au jour naissant, tout allait finissant, la terre rougit de sang. Dressé, on est dans l'ordinaire d'un cimetière. enfant, elle m'intriguait, ses médailles accrochées, cet épitaphe ajouté. Un autre fils tombé, à 25 ans aux éparges, 20 février 1915, tombé. J'appris que ce fut un calvaire, les mines à tort et à travers, ventre noué à piétiner les charniers du fond des tranchées. Piégé dans la souricière, sous les orages de l'enfer, la chair de la boue mêlée, la mort faisait son marché. Au jour naissant, on comptait les manquants, au grand deuil de l'hiver, camarades et vieux frères. Au jour naissant, on comptait les manquants, la terre rougit de sang. Curieusement dressés, on est dans l'ordinaire d'un cimetière. Le nom d'un homme gravé, deux médailles accrochées, juste une épitaphe ajoutée. C'est un matin d'hiver transi qu'il quitta ce pays d'absurdie, au bout d'un voyage pour rien, bien au-delà de l'inhumain. Au bout d'un voyage pour rien.